Vous êtes de retour à Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et on termine l'émission d'aujourd'hui avec, comme à chaque mardi, votre chroniqueur littérature, Alexandre Lamarche.
Bonjour à toutes les deux.
Hello.
Alors aujourd'hui, ben, tes chroniques ont toujours un thème et on suit toujours un peu à l'actualité, hein, l'élaboration de tes chroniques puis le choix créatif de tes ouvrages. C'est quand même inspirant les derniers temps. Là.
Oui, pour le meilleur et pour le pire.
C'est ça.
Hier, on a eu l'investiture du nouveau président des États-Unis avec toutes les inquiétudes que ça sème avec raison chez bon nombre de personnes. Donc, je me suis dit, essayons d'aller trouver des livres dans ma bibliothèque qui sont sortis au cours de la dernière année qui pourraient répondre un petit peu à ça. Parler de l'histoire des Canadiens français aux États-Unis, notamment dans une époque où on craint de plus en plus l'immigration plus que l'émigration, et quelques autres ouvrages qui peuvent nous donner des solutions, effectivement, à Trump. Je vous en donne pas plus, il faut écouter la chronique jusqu'à la fin.
Alors, avec quel ouvrage t'as envie de commencer?
Une race d'étrangers, le récit méconnu des Franco-Américains de David Vermette. Les Franco-Américains, c'est plus de 1 million de personnes.
Million?
Oui, 1 million. C'est immense. Dans le fond, au 19e siècle, il y a énormément de Canadiens français qui vont traverser la frontière, principalement des gens du Québec, mais un petit peu du Nouveau-Brunswick, un petit peu de l'Ontario dans une bien moindre mesure. Et on est à une époque où il y a de plus en plus, le territoire agricole au Québec commence à être plein dans les régions où la terre est facilement fertile. Hein, t'sais, l'Abitibi va finir par se développer, mais c'est peut-être pas l'endroit le plus stratégique pour s'établir avec une ferme. Face à ça, les familles nombreuses, on cherche quoi faire pour les enfants. Et parallèlement, aux États-Unis, on a une industrie textile qui se développe, qui a besoin de beaucoup de gens pour travailler pas cher afin que ça soit rentable. Et donc, on a un match tout naturel qui s'opère. Des Canadiens français qui n'ont pas vraiment d'avenir dans le couloir laurentien, qui cherchent un travail. Une industrie textile qui cherche du cheap labor. Et donc, ça va faire qu'il va y avoir beaucoup de Canadiens français qui vont traverser la frontière au 19e siècle pour aller travailler dans le coin du Massachusetts. Et il y en a quelques-uns qui vont réussir. Donc, va se créer un peu ce mythe de l'oncle des États très, très riche qui revient, qui dit « Aïe, moi, j'ai tellement fait d'argent aux États-Unis. Tout est tellement merveilleux. Tout est tellement facile. » Et donc, qui va amener d'autres gens à émigrer vers les États-Unis. Et à une certaine époque, il y a tellement de Canadiens français dans certains États américains qu'on va parler de « Petit Canada ». Donc, c'est vraiment, il va y avoir un journal qui va se créer, il va y avoir une église, il va y avoir un magasin général où ça parle français, il va y avoir des institutions, des écoles, etc. Et donc, on a vraiment des petites communautés de Canadiens français qui se forment aux États-Unis à cette époque-là. Et David Vermette, ce qui est intéressant, c'est que, faudrait peut-être dire David Vermette, parce que, c'est un des descendants de ces Canadiens français qui ont immigré aux États-Unis. Et lui, il offre le point de vue américain. L'ouvrage, à la base, a été publié en anglais aux États-Unis et ce que Septentrion nous en offre, c'est une traduction. Et donc, la plupart des ouvrages que j'ai eu l'occasion de lire jusqu'à aujourd'hui sur l'histoire des Canadiens français aux États-Unis sont le fait de Canadiens français, donc principalement des Québécois ou des Ontariens ou des Acadiens qui se sont intéressés à ça depuis leur point de vue de Canadiens français qui sont restés au Canada.
Mais l'inverse, c'est moins arrivé. Là.
Exact, on a moins eu l'inverse et là, on a un descendant de ces Canadiens français qui nous donne ce point de vue-là. Et donc, je trouve que c'est particulièrement intéressant et éclairant.
Je suis surprise parce que je m'attendais... Moi, quand j'entends francophonie, vraiment juste francophonie aux États-Unis, je pense à Nouvelle-Orléans, puis toute cette communauté-là. Fait que tu nommes Massachusetts, qui est vraiment plus haut, là. Je pensais pas du tout qu'on allait aller... que ça allait être là que les communautés... francophone québécoise allait s'installer. Tu sais, j'aurais pensé que ça allait être un peu plus au sud, tu sais, avec la francophonie déjà existante.
Tout à fait. C'est là-bas. Ce qu'on aurait pu croire a priori parce que, la Nouvelle-France, elle s'étendait de l'Acadie jusqu'à la Louisiane, donc c'est jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et il y a une communauté historique en Nouvelle-Orléans. On va en parler peut-être un petit peu dans le cadre du deuxième ouvrage. Mais au 19e siècle, c'est pas cette communauté-là qu'on cherche à les rejoindre. Ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir du travail et les manufactures de textiles du Massachusetts qui sont proches au final du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et compagnie, ben, offrent ce travail-là. Et ce qui est assez intéressant, qui peut envoyer aussi bon un lien avec ce qui est aujourd'hui, c'est que ben face effectivement à cette immigration quand même assez importante de Canadiens français dans ces États-là, va venir une montée de l'intolérance. Il y a beaucoup de Canadiens français qui émigrent vers les États-Unis et bon les ce qu'on appelle les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants, donc les WASP.
Comme des guêpes, non mais drôle.
C'est ça aux États-Unis, donc ces Américains d'ascendance protestante et anglophone, ben voyant effectivement ces papistes, parce que là ben c'est les Canadiens français, ils sont catholiques, donc ils obéissent aux ordres du pape, puis ça inquiète énormément et donc il va y avoir une montée du racisme envers les Canadiens français à cette époque-là. Le titre « Une race d'étrangers » ben, vient un petit peu de cette époque-là où ben, on a l'impression que les Canadiens français, c'est une race pas comme les autres parce que ben, ils sont bien organisés, ils se développent et donc ils s'intègrent peut-être un peu moins aux États-Unis à cette époque-là. Et il va y avoir une montée du Ku Klux Klan, entre autres. Le Ku Klux Klan, on le connaît bien pour son intolérance envers les Noirs, mais il y a une intolérance aussi envers les Canadiens français catholiques à cette époque-là. Et donc, il va y avoir tout ce racisme-là qui va se développer aux États-Unis et je dirais qui va se solutionner dans une certaine mesure par l'intégration des Canadiens français aux États-Unis, au melting pot américain. Les derniers chapitres de David Vermette ben, nous montrent qu'au final, cette race d'étrangers-là, elle a disparu parce qu'au bout de quelques générations, ben, les enfants ben, arrêtent de parler français, se mettent à parler anglais. Il y a juste les vieux qui parlent français. Il y a cette volonté de s'intégrer à l'American way of life, au rêve américain. Et ben, petit à petit, ben, on quitte les racines. Ces racines-là ne sont plus que folkloriques. Et ben, effectivement, avec l'intégration au fait américain, ben, petit à petit, cette intolérance-là va partir parce que, ben, au final, on ne distingue plus qui est Canadien français de qui ne l'est plus. Donc, c'est vraiment un ouvrage intéressant.
Puis comment l'ouvrage, ça c'est comme ma question qui revient à peu près à chaque fois, comment l'ouvrage est construit, est-ce que c'est écrit au jeu par l'auteur ou ça va plus être raconté comme un récit historique?
C'est vraiment plus un récit historique, donc oui, l'auteur a un intérêt personnel parce que c'est ça, il descend d'émigrants canadiens français, mais c'est vraiment un travail d'historien qui a été fait. C'est écrit un narrateur historique. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était bien écrit, que c'était facile d'accès et que ben ça permet vraiment d'avoir le point de vue d'un Américain. Et ça met bien de l'avant, effectivement, toute la dimension économique avec les manufactures de textiles.
Et pour le 12e ouvrage, est-ce que c'est celui-là de l'oral à l'écrit, de l'objet à l'image, l'expression de la reconnaissance dans les francophonies nord-américaines?
Oui, ben, c'est un ouvrage de la CEFAN, la chaire d'études en francophonie nord-américaine. Donc, la CEFAN, c'est vraiment un centre de recherche qui est basé à l'Université Laval. C'est ça, la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, qui ben, s'intéresse à cette francophonie. Mais cette francophonie qui est plus large que les Canadiens français aux États-Unis, mais qui couvre aussi éventuellement les Belges, les Français qui au 19e siècle émigrent aux États-Unis, la petite présence francophone qu'il y a pu avoir au Mexique et ben, cette francophonie-là également en Nouvelle-Orléans. Donc, les travaux de la CEFAN sont souvent effectivement rassemblés dans des cahiers comme celui-là, qui permettent effectivement d'avoir une idée de cette culture francophone en Amérique du Nord. Donc ici, ben, on a des textes qui traitent vraiment de plein d'enjeux différents, mais qui permettent de voir vraiment comment ben, cette mémoire francophone s'est transmise en Amérique. Donc on a beaucoup de textes en histoire orale qui nous permettent de voir comment on a été chercher cette mémoire chez des descendants qui, dans certains cas, ne parlent plus français ou n'en ont que de très, très vagues idées. On a effectivement cette francophonie nord-américaine, ça s'expose également du côté du Canada français. Donc, c'est les francophones en Ontario, les francophones au Manitoba, les francophones en Colombie-Britannique. Donc, on a un texte de Caroline Beaulieu sur l'expérience des petites filles au couvent, petites filles québécoises et manitobaines entre 1930 et 1970. On a également, bon, des textes sur la question d'une famille bourgeoise qui a immigré aux États-Unis, les Jobins de Québec, qui se ramassent à Boston au 19e siècle. Et c'est intéressant parce que, ben, la plupart du temps, qu'on parle des Canadiens français qui se ramassent aux États-Unis, on a toujours cette vision de pauvres qui, ben, fuient effectivement la misère pour s'installer aux États-Unis, alors que là, on a plus l'expérience d'une famille bourgeoise qui est documentée par de la correspondance. Donc, c'est un beau texte de Leslie Choquette sur la question. On a également des textes de conservatrices du Musée de la civilisation, Valérie Bouchard et Valérie Laforge, qui nous parlent d'objets qui témoignent de cette culture canadienne-française, ben, en fait, franco-américaine qui s'étend sur le territoire à cette époque-là. Donc, vraiment toute une série textes qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur l'Amérique française.
Et... avec des points de vue différents, ce qui, ouais, je trouve, comment tu décris, amène quand même une certaine richesse là, à l'ouvrage. C'est pas juste, c'est pas juste des points de vue de personnes qui l'ont vécu, mais aussi d'historiens et tout ça, fait que ça me semble quand même...
Exact, et donc on a autant des auteurs plutôt des États-Unis, des auteurs du Québec, des auteurs d'Acadie. Donc, les perspectives sont différentes. Les territoires explorés sont différents. On explore, par exemple, l'humour de l'Ontario français. On explore également, bon, Lorraine Diot, une femme que je ne connaissais pas du tout, mais qui est considérée comme la Bolduc des Acadiens, donc une chanteuse populaire de la première moitié du 20e siècle. C'est assez intéressant, effectivement, de voir comment la culture francophone prend son essor en Amérique du Nord. Et ici, on est vraiment dans une perspective d'histoire orale, d'histoire ethnologique. Donc vraiment, Jocelyne Mathieu, Martine Roberge, qui sont toutes les deux professeurs au département des sciences historiques de l'Université Laval, nous offrent ce regard qui est très, très basé sur la rencontre de l'autre, sur le témoignage qu'ils nous offrent, sur ce que les objets nous disent aussi. Donc on a un regard un petit peu muséologique. Donc c'est encore une fois un ouvrage où les textes, encore une fois, dans le cas de David Vermette, on est plus dans un récit là, qui se lit du début à la fin, ouais. Alors que là, dans ce cas-ci, on est plus dans un recueil de textes, donc on est capable de lire un texte, les textes qui nous intéressent seulement en fonction de nos intérêts.
Mm-hmm. Puis pour le troisième ouvrage, tu nous amènes avec le métier de journaliste, hein, le métier de Pierre Sormani.
Oui.
Le métier de journaliste, hein, que tout dépendant où tu es dans le monde, tu peux l'avoir un peu plus difficile, hein, que d'autres.
Ouais. Effectivement. Disons-le ainsi. Ça va être absolument nécessaire d'avoir des journalistes qui sont allumés, qui ont une liberté de parole pour être capable d'offrir un contre-pouvoir au président Trump. De manière générale, en fait, hein, peu importe les politiciens qu'on a, quand on a des journalistes, ça permet d'avoir un contre-pouvoir efficace, qu'on soit effectivement au niveau municipal, provincial, fédéral, au Québec, comme aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et ce que Pierre Sormani ici nous offre, c'est une nouvelle édition d'un guide d'outils pratiques de journalistes qu'il avait fait il y a quelques années. J'aurais envie de dire, c'est vraiment un manuel. J'ai l'impression que ça doit être utilisé par les professeurs de journalisme en cours pour être capable... Non?
Non, ben personnellement, je ne l'ai pas encore vu, cet ouvrage-là, mais probablement que ça s'en vient dans mon
peut-être
parcours.
Peut-être que ça s'en vient dans ton parcours, ou peut-être effectivement que il n'est pas utilisé, mais moi, en fait, si j'enseignais le journaliste, après, bon, je ne suis pas journaliste de profession, hein, je suis chroniqueur, c'est pas la même chose, mais je trouve qu'il serait intéressant pour enseigner le journalisme. Parce que, on comprend, en fait, un, qu'est-ce que le journalisme? Deux, effectivement, quelles sont les contraintes avec lesquelles les journalistes doivent dealer? Puis, quelles sont les sources qu'on peut consulter? Quelles sont les différentes manières de pratiquer la profession? Tu sais, quand on fait de la nouvelle, on n'y va pas, effectivement, de la même manière que quand on fait plus de la chronique. Comment est-ce qu'on fait des citations? Qui est-ce qu'on cite? Pourquoi est-ce qu'on le cite? Quand est-ce qu'on le cite? Comment est-ce qu'on le cite. Donc, c'est vraiment des choses qui sont assez importantes. Et aussi, vous êtes journaliste, vous vous intéressez à un sujet, vers quelle source aller? Parce que oui, c'est bien beau d'aller vers des experts, mais il y a tout plein de choses qui sont quand même assez courantes, qui peuvent aider les journalistes à en savoir plus sur un sujet donné. Donc, les rapports de commission d'enquête, comment est-ce qu'on lit ça, c'est quoi leur intérêt, la loi à l'accès sur l'information, comment est-ce qu'on l'utilise, à quel quel moment, qu'est-ce que ça peut nous donner comme source. Donc, il y a vraiment effectivement toutes ces informations-là. Un rapport annuel, par exemple, de compagnie. Qu'est-ce ouais. que c'est? C'est d'abord et avant tout destiné pour des actionnaires. Donc, c'est fait de manière à se péter les bretelles puis à montrer que, hey, on est vraiment une compagnie hot puis on a vraiment livré des belles choses cette année. Mais le journaliste doit être capable d'avoir une seconde lecture puis d'être capable de lire, OK, mais qu'est-ce que je suis capable de lire en dessous? Donc, il y a ce côté-là très, très pratique qui va intéresser les gens qui s'intéressent aux journalistes ou qui veulent devenir journalistes.
C'est un, je trouve que, comment tu le décris, ça a l'air d'être un bon ouvrage pour comment aussi se protéger en tant que journaliste. Comment est-ce qu'on peut être soutenu par les sources ou par la différente manière qu'on a de faire nos recherches en tant que journaliste.
Et en même temps, n'importe qui pourrait lire ce type d'ouvrage-là, puisque tu sais, nous, dans mes cours de journalisme, on le voit, là, qu'il y a aussi la clé là-dedans, c'est l'éducation, mais pas juste du journaliste, d'aussi la population. Donc, d'essayer de comprendre c'est quoi ce métier-là pour comprendre les buts, comment chaque chose est faite. Donc, c'est aussi une belle corde à son arc d'avoir... De la part à tout le monde.
Oui, c'est ça, vous m'enlevez les mots de la bouche, c'est là où je voulais aller, parce que il y a l'aspect, c'est ça, très très didactique, j'aurais envie de dire, qui s'adresse à la personne qui veut étudier en journaliste, mais moi je l'ai lu en tant que personne qui lit des nouvelles, en tant que citoyen qui est allumé, s'intéresse à l'actualité. Et ce que j'ai aimé, c'est justement d'être capable de mieux comprendre le travail du journalisme. OK, c'est pour ça que le journaliste, pour lui, c'est toujours important d'avoir des citations. OK, quand je me fais interroger par un journaliste, parce que en tant que président de la Société du patrimoine urbain, un organisme à but non lucratif qui gère l'îlot des Palais, je me fais interroger par des journalistes pour faire des articles. OK, c'est pour ça qu'ils recourent à moi dans telle situation. OK, ouais. C'est ça qu'ils veulent venir chercher chez moi dans telle situation. Donc, je dirais que c'est vraiment intéressant aussi à lire en tant que personne qui s'intéresse à l'information. Ça peut permettre aussi éventuellement de faire ses propres recherches. Moi, c'est ça. C'est rare que j'ai eu recours à la loi d'accès à l'information ou c'est rare que je vais aller lire des rapports de commission d'enquête. Mais c'est accessible. C'est en ligne.
Juste à faire la demande par tout le monde.
Exact. Et donc, ça peut se faire et ça peut nous donner de l'information dans certains cas. Donc, je trouve que c'est intéressant pour être capable de mieux comprendre le monde, mieux comprendre les nouvelles qu'on lit, mieux comprendre la posture du journaliste. Puis, comme ça a une super de bonne table des matières, c'est possible d'y entrer par un peu le bar qu'on veut sans effectivement se taper nécessairement toute la lecture. Si nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment plus comment est-ce qu'on utilise les sources, comment est-ce que le journaliste, justement, traite une nouvelle. Donc, de rentrer par le bar qu'on veut dans l'ouvrage.
C'est vraiment intéressant pour vrai. J'aime comment tous les différents ouvrages que tu nous amènes peuvent avoir un lien avec
l'actualité.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Finalement, pour terminer, j'ai envie de vous proposer une solution au tarif de 25%.
Oh là.
Donc, on invite M. Legault à nous écouter bien comme il faut. La solution, pour moi, elle passe effectivement par l'exportation de la culture québécoise. Donc, on ne le dit pas assez souvent, mais chaque dollar investi en culture produit vraiment des dividendes, en fait, des profits très, très intéressants. Au Québec, on est choyé, on a une culture qui est très, très créatrice. On a des créateurs qui sont dynamiques. Et c'est ce sur quoi se sont penchés Denis Saint-Jacques, Marie-Josée Desrivières et Elisabeth Plourde dans le cadre d'un ouvrage collectif qui s'appelle « Quand la culture québécoise se fait connaître au monde ». Donc, aujourd'hui, on le sait, Robert Lepage brille sur les scènes internationales. Le Cirque du Soleil aussi s'est fait connaître un peu partout dans le monde. On a des auteurs québécois qui sont édités en Europe, sont traduits dans plusieurs langues. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
Ouais, puis même, il y a de plus en plus, surtout cette année, il y a plein de projets émergents, tu sais, des petits projets musicaux qui vont tourner au Mexique, qui vont tourner aux États-Unis, puis c'est des projets qui sont francophones, là. Tu sais, je pense juste à Hubert Lenoir, qui a eu un gros rayonnement aux États-Unis dans les dernières années, tu sais, qui est un projet francophone québécois, mais qui s'est fait super connaître, puis qui s'est fait apprécier aussi.
Juste présentement, Charlotte Cardin, depuis qu'elle est passée à la Star Academy, le nombre de sa popularité a monté en flèche là, depuis Star Academy en France, parce que oui, Star Academy au Québec, mais il y a aussi la version française, puis elle est passée là, puis sur les réseaux sociaux, ça paraissait, là, ce, la découverte d'une artiste québécoise à l'international. Là.
Exact.
On est loin de Céline.
On est loin de Céline, mais justement, effectivement, comment des stars peuvent être connues à l'international, comment des Québécois peuvent amener, effectivement, à avoir une percée sur la scène internationale avant les réseaux sociaux. Donc, ouais. C'est la question que se sont posées Denis Saint-Jacques, Marie-Josée Desrivières et Elisabeth Plourde. Et ils ont invité toute une série de chercheurs à réfléchir à la chose. Et donc, principalement depuis les années 1960, il y a quelques textes qui remontent un petit peu avant, notamment sur Maria Chapdelaine, etc. Mais au cours des années 1960, on a la Révolution tranquille, on a l'Expo 67, on a les Belles-Sœurs aussi. Et donc, il y a vraiment une explosion culturelle et le Québec va se faire connaître à l'étranger. Et donc, on a plein de textes thématiques qui permettent d'en savoir plus sur la question. Par exemple, il y a un important festival qui existe en Pologne qui s'appelle Sopot, où Monique Lérac, une chanteuse québécoise assez importante des années 60, 70, 80, va gagner le premier prix comme interprète. Et la chanson qu'elle chante, une chanson de Gilles Vigneault, va gagner le premier prix comme chanson. Donc, le Québec va se mettre à briller en Pologne et sur la scène internationale. Puis par la suite, on a plein de chanteurs québécois, Robert Charlebois, entre autres, qui vont aller chanter dans ce festival-là et remporter des prix. Robert Charlebois, entre autres, pour sa chanson « Ordinaire ». Donc, c'est ça, tu te dis, voyons, on est en Pologne. Puis, le Québec est capable de briller dans les années 1960 et un festival dans ce pays-là d'Europe qui est peut-être un petit peu moins connu aide à lancer des carrières internationales de Québécois. Donc, c'est des choses comme ça qu'on découvre dans cet ouvrage-là.
Cet ouvrage-là relate l'histoire, tu sais, le rayonnement culturel du Québec dans quelle braquette d'années?
Ben, comme je disais, principalement à partir des années 1960 jusqu'à aujourd'hui.
OK.
Mais on a des textes là, qui couvrent un petit peu le début du 20e siècle, notamment avec Maria Chapdelaine et le frère André de Denis Saint-Jacques. Mais c'est vraiment plus effectivement à partir là, des années 1960 que sur lesquels les auteurs se sont penchés.
Mm-hmm. Je trouve que on voit de plus en plus ces artistes qui rayonne à l'international, puis de voir toute cette évolution-là depuis les années 60, comment est-ce que ça se fait, c'est marquant, puis ça démontre comme que, au Québec, on fait des belles choses.
Mais oui.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, là, on a parlé de la chanson, mais l'ouvrage ne traite pas que de musique. Il traite aussi, de théâtre. Par exemple, comment est-ce que les Belles-Sœurs vont réussir à s'imposer ou pas dans les années 1960 et 1960... dans les années 1970 à Paris, parce que là, on est en joual, puis les Français, des fois, sont un peu de mauvaise foi, puis veulent pas comprendre. Comment, effectivement, un prix littéraire comme le prix Médici va changer la carrière de Marie-Claire Blais. On est même du côté de l'humour avec les cyniques. Les cyniques, c'est souvent le groupe humoristique qui est considéré un petit peu comme les ancêtres de Rock et Belles Oreilles. Jonathan Livernois, professeur à l'Université Laval, va nous offrir un texte où il parle de ce qu'il appelle l'effet Chiquita-Tétro. Chez les cyniques. Dans le fond, les cyniques, justement, nous permettent de faire preuve d'un petit peu d'humilité parce que, on a l'impression qu'on s'ouvre au reste du monde dans les années 1960, mais au final, on est davantage dans une espèce de culture qu'on croit être celle de l'ailleurs, alors que, c'est des gens de la place. Chiquita Tétro étant effectivement pour les cyniques une danseuse espagnole, mais c'est ça qui est probablement né à Brossard ou à Verdun parce que, elle porte le nom Tétro. Hein? Donc, on a effectivement un peu cette époque-là où, oui, le Québec s'ouvre sur l'ailleurs, mais au final, peut-être pas tant que ça. Donc, on a vraiment des textes sur, comme je disais, l'architecture, l'Expo 67, sur la question de la peinture, sur les questions même du mouvement hippie. Donc, ça va vraiment dans beaucoup de directions et ça permet de saisir la culture, non pas comme uniquement la musique, même si, les textes effectivement qui abordent cet élément-là sont pertinents et intéressants, mais comme l'ensemble des faits humains qui, émanent de la créativité.
Puis en plus, cette année, il y a un mouvement qui s'est créé, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Alex, la grande mobilisation pour les arts au Québec, qui est un mouvement là, d'artistes là, partout à travers la province qui se mobilise pour réunir le milieu des arts pour que le financement soit plus grand, entre autres. Pas que du sous-financement, mais le financement est pas en croissance comme il devrait l'être, là, comme le veut le
Conseil des arts.
Ben c'est ça, le Conseil des arts. Puis ben justement, si vous êtes de passage là, à Montréal, il y a une manifestation dans 2 jours, le 22. Ben demain, en fait. On va sûrement en revoir aussi à Québec, là, justement, dans les prochains temps. Fait que, merci, Alex. Est-ce que tu peux nous faire en rafale un retour sur les 4 ouvrages que tu nous as présentés aujourd'hui?
Avec plaisir, donc, pour souligner l'investiture de Donald Trump et vous offrir un petit peu de quoi vous consoler. Une race d'étrangers, le récit méconnu des Franco-Américains de David Vermette. C'est une traduction de Aimé Le Breton. C'est publié chez Septentrion et c'est un regard franco-américain sur la question de l'immigration canadienne-française aux États-Unis. De l'oral à l'écrit, de l'objet à l'image, expression de la reconnaissance dans les francophonies nord-américaines. Un des cahiers de la Céphane sous la direction de Jocelyne Mathieu, publié au Pull. Donc, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est la question de l'oralité, des objets, des immigrations et de comment la culture francophone nord-américaine se vit. Le métier de journaliste, guide des outils et des pratiques du journalisme au Québec, nouvelle édition refondue et mise à jour de Pierre Sormani, publié chez Boréal. Donc, si vous étudiez en journaliste, si vous voulez mieux comprendre ce que les journalistes vous servent comme nouvelle, bel ouvrage pour être capable d'en savoir plus sur la question. Et finalement, quand la culture québécoise se fait connaître au monde, de Denis Saint-Jacques, Marie-Josée Desrivières et Elisabeth Plourde, c'est un collectif publié chez Alias, qui permet de savoir, d'en savoir plus sur cette ouverture au monde que connaît le Québec dans les années 1960 et comment des sphères aussi diversifiées que l'humour, la chanson, la littérature, l'architecture, le spectacle en sont venues à faire connaître le Québec sur la scène internationale.
Mmh. Hey, merci Alex pour cette chronique. Littérature toujours teintée d'actualité. J'en remercie. Puis on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même jour, mardi à 17h pour d'autres chroniques. Littérature.
Avec grand plaisir.
Et pour nous, chers auditeurs, auditrices, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Alors, voilà. Chers auditeurs, auditrices, d'avoir été à l'écoute de Chérie J'arrive ici sur les ondes de Chiz 94.3. Je remercie en premier lieu ma co-animatrice du jour, Élise Rivrain.
Hello.
On a eu des invités très intéressants aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, on a eu Morane qui nous a présenté, en fait, on a parlé de son exposition My Heart is So Good, Nobody Likes It. Donc, on a parlé avec elle de cette exposition-là qui est jusqu'au 23 février à l'œil de poisson dans la petite galerie.
T'es aussi allé voir multiples expositions à la Méduse qui font partie parallèlement là, de la programmation du mois multi 2025. Oui, qui sont tous là en ce moment. Faut aller les voir.
Oui, exactement. Allez se promener là. Il y en a comme 7, là. Fait que...
les galeries sont ouvertes du mercredi au dimanche entre 10h et 17h. Mais vous pouvez aller voir environ. Mais vous pouvez aller voir sur le site web.
Exactement, et tout voilà, est là.
Tout est là. Sinon, on a reçu aussi en collaboration avec le FOCOF, Festival déjanté de diffusion de musique alternative ici dans la capitale nationale. On a reçu Vincent du projet Surette qui nous annonce un virage dans son projet. Pour découvrir ce virage musical de l'artiste, c'est un rendez-vous le 17 février 2025 dès 20h à l'Ampli pour une vitrine. On va pouvoir voir le fruit de son travail des derniers mois. Et sinon, un grand merci à Alex Tremblay-Lamarche pour ses chroniques hebdomadaires teintées d'histoire, mais surtout de littérature. Et voilà. Puis toi, ma chère Élise, on se retrouve la semaine prochaine également.
Dans deux semaines. On ira de retour aux 2 semaines.
De retour aux 2 semaines. Et pour notre part, chers auditeurs auditrices, on se retrouve dès demain, 16h. Chérie, je t'ai arrivée.